Alors d'abord, écoute, merci à toi, merci à Pierre de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là, même si j'ai un peu le trac. Ça se sent peut-être pas, mais j'ai le trac. Alors Pierre, cet été, m'a dit que je pouvais parler de ce que je voulais. Voilà, c'était ouvert. Alors j'ai profité de l'occasion pour aborder un sujet que j'avais envie de traiter depuis très longtemps, en fait, pour être très exacte, depuis 11 ans, depuis que j'ai soutenu ma thèse. Je me suis beaucoup occupée depuis plusieurs années des Fan Schools et de Savonarole. Alors quand on entend Fan Schools, c'est les enfants du frère, ce sont les garçons florentins que Savonarole employait dans des missions de purification de Florence. Et depuis très longtemps, j'avais envie de m'occuper des fanciulle, c'est-à-dire des filles, des jeunes filles. Et donc, bon, là, je me suis lancée. Alors, j'avais quand même un peu peur parce que je pars de rien. Non seulement je n'ai jamais traité ça, mais en fait, aucune étude porte sur cette question. Donc, c'était un peu sans filet. Au point que j'ai eu peur de ne pas avoir assez à dire. C'est pour ça que dans un premier temps, j'avais rajouté dans le titre, quand Pierre m'a dit, bon, là maintenant, il me faut un vrai titre, je t'ai dit, bon, à tout hasard, je vais mettre les fanciulli et les fanciulle, et comme ça, si jamais je ne trouve pas suffisamment de matière, bon, ben, je me raccrocherai un peu comme je pourrais au terrain connu. Et puis, en fait, bon, alors, ça a été fait dans l'angoisse, hein, toujours, de ne pas suffisamment avoir de matière et de découvrir finalement qu'il n'y avait pas de sujet. Et puis finalement, je crois qu'il y a quelque chose. Alors c'est pour ça que les Fan Schools ont sauté de la version définitive du titre que vous avez sous les yeux. Voilà, alors évidemment, comme je pars de rien, toutes vos remarques me seront particulièrement précieuses, hein, puisque voilà, c'est un peu le saut dans l'inconnu. Donc n'hésitez pas à me faire part de toutes vos suggestions et critiques, et y compris alors, pour les traductions des citations. Hein, j'ai eu parfois du mal, elles sont sous vos yeux, donc y compris avec les erreurs possibles. Alors, sur la réforme des femmes laïques, hein, pas des fanciulle, mais des femmes laïques dans la Florence de Savonarole, plusieurs articles ont été écrits. Le premier remonte à très très longtemps, à 1900, quand Gualtiero Nerghi a publié « Il Savonarola nella riforma delle donne ». Alors, il considère que la réforme envisagée par Savonarole est uniquement religieuse, et Gualtieri, il s'intéresse à ce moment-là au modèle marial proposé par Savonarole et au rôle joué par la femme au sein de la famille. Ensuite, il faut attendre 83 ans, donc 1983, pour qu'un document publié par Kent relance l'intérêt pour la réforme des femmes chez Savonarole. Donc Kent a publié une lettre que Jacopo Bongianni envoie à Santi Rucellai et a montré, à partir de cette lettre, combien la proposition de Savonarole de donner un rôle aux femmes sur la scène publique s'est heurtée à des oppositions. 10 ans plus tard, c'est Lorenzo Polizzotto qui s'intéresse à la réforme, alors ce coup-ci non pas des femmes laïques, mais des couvents de religieuses. En 2001, Adriana Valerio s'est appuyée sur la lecture des sermons sur Ruth et Mickey pour étudier le rôle actif des femmes dans la réforme de Florence. Et tout récemment, en 2008, Tamar Erzic, j'hésite sur la prononciation, qui est chercheur à l'université de Tel Aviv, a publié une synthèse sur la façon dont les femmes ont réutilisé l'héritage de Savonarole dans les 50 premières années du XVIe siècle. Alors, quant à ceux qu'on appelle les enfants du frère, hein, ces fameux fanciulli dont je vous parlais, ils ont eu beaucoup plus de succès auprès de la critique. Hein. Alors, c'est de nouveau Gualtiero Nerghi qui a fait un article pionnier en 1901. Donc, de cet article jusqu'aux récentes publications parues à l'occasion du 5e centenaire de la mort de Savonarole, les fanciulli ont été analysés d'un point de vue psychologique, sociologique, religieux, historique ou politique. Donc là, il y a de nombreuses études qui ont été faites. En revanche, les fanciulle, c'est-à-dire les fillettes et les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, ces fanciulle sont totalement passées sous silence. Elles rejoignent ainsi ce que Franco Cambi et Simonetta Olivieri appellent les marginaux dans l'histoire. Les enfants, les femmes, les jeunes, les vieux, les anciens, les vagabonds, en somme tous ceux qui appartiennent à des groupes qui diffèrent de la majorité. Pourtant, l'examen de la façon dont Savonarole envisage la réforme des fanciulle apporte des éléments de compréhension sur la réforme qu'il entend proposer de l'ensemble de la population florentine. C'est en tout cas ce que j'espère vous montrer aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, j'analyserai la place qu'occupent les fanciulle dans les sermons. Et ensuite, nous analyserons le rôle que le prédicateur leur confie en les comparant successivement d'abord aux fanciulli, puis aux femmes. Alors, si les passages où Savonarole s'intéresse aux fanciulli sont peu nombreux, ils existent et témoignent de l'intérêt qu'il leur porte. Il montre aussi et surtout que si le prédicateur envisage une réforme globale de Florence, il voit toutefois la population de la cité comme un assemblage de différents groupes caractérisés par leur sexe, femmes et hommes sont souvent interpellés séparément, par leur âge, la question des vieux et des jeunes constitue un axe très important dans les sermons, par leur fonction dans la cité, ce peut être les magistrats qui doivent donner l'exemple aux citoyens, ou alors dans l'Église, le clergé séculier ou régulier d'un côté, les fidèles laïcs de l'autre, ou alors encore par leur place au sein de la famille. Le prédicateur évoque le rôle respectif des parents et des enfants. Emblématique à cet égard est un passage du sermon 3 sur Âgés, où les fanciulle sont invités à se réformer au même titre que d'autres groupes de la population florentine. Donc la citation numéro 1, que je vais lire en italien, en français, en italien. O uomini, o donne, o padri, o madre, o figliuole, o preti, o frati, o chierici, o religiosi, o monaci, o monache, o grandi, o piccioli, o cittadini, o gran maestri, o d'ogni sorte e grado di persone, pigliate questo libro del crucifisso in mano. Je pense qu'on dit plutôt piccioli. Pardon pour la marque de stress. De plus, dans la majorité des cas, Savonarole nomme séparément fanciulli et fanciulle. Ainsi, lorsqu'il reprend métaphoriquement la figure vétérotestamentaire d'Amos en tant que piqueur de sycomore, il compare les enfants de Florence à des fruits mûrs qu'il faut cueillir de façon à ce qu'ils constituent une semence pour l'avenir. Or, dans cette comparaison, fanciulli et fanciulle constituent deux groupes dont la séparation est renforcée par une structure en chiasme. Citation 2. Era vi ancora delle mele piccoline in su questo albero. Questi sono i fanciulli buoni e le buone fanciulle. Questi frutti si hanno a riporre in sul granaio e serbarli per semente, ma gli cattivi morranno. De même, lorsqu'il déplore l'éducation que les enfants florentins ont reçue, le prédicateur les cite à nouveau de façon différenciée. À voir la citation 3. Per difetto dei padri spirituali e dei padri carnali che non hanno avuto cura delle loro pecorelle, gli fanciulli e le fanciulle sono cascati dalla loro purità perché li hanno allevati secondo il mondo e non secondo Dio. Enfin, lorsque Savonarole aborde, à propos de la communion, la question de l'acquisition ou non du discernement nécessaire, les enfants florentins, de nouveau, ne sont pas présentés comme une masse indistincte de filles et de garçons. Voyez la citation 4. « Edico breviter che San Tommaso conclude che come il fanciullo o la fanciulla a 11 anni si vuol prima vedere se ha discrezione e se conosce che cosa sia il sacramento dell'altare e se sa la differenza che è tra questo pane e quello che si mangia nelle nostre tavole. E allora se hanno questa discrezione con qualche devozione mandateli alla comunione. » Pourtant, et contrairement à la façon dont Savonarole présente les choses, Thomas d'Aquin ne fait pas une telle séparation lorsqu'il parle de l'âge de discrétion nécessaire à la réception du sacrement de l'Eucharistie. Je vais vérifier. Par conséquent, si cette façon de s'adresser à chaque groupe de la population est conforme à la prédication ad status élaborée dès la moitié du XIIIe siècle par les ordres mendiants, on peut toutefois déjà conclure que pour frère Jérôme, la différence entre garçon et fille fait sens. Il est dès lors légitime de s'interroger sur la place que Savonarole réserve aux uns et aux autres, et surtout sur la particularité des fanciulli. Sous bénéfice d'inventaire, les occurrences concernant les fanciulli sont toutes de l'ordre du précepte et concernent un seul domaine, leur tenue vestimentaire, Savonarole les appelant à davantage de sobriété. Alors, comme toutes les femmes, les fanciulli, qui sont vouées exclusivement à la procréation ou au contraire à la virginité monastique, incarnent la sexualité. C'est pourquoi Savonarole peut voir dans les décolletés, les accessoires de coiffure, une invitation à la luxure. Condamnant ainsi tout ce qui permet de valoriser la beauté féminine, Savonarole invite les femmes florentines à éviter que leurs filles soient semblables, je cite le passage numéro 5, « Oh, va che grasse di Samaria, ou Samaria, sono le meretrici della Italia e di Roma. » Et par conséquent, il enjoint les femmes de fate che le vostre fanciulle non siano vacche, fate che le vadino coperte il petto, non portino la coda come le vacche, non abbino le corna come le vacche, fate le posare queste veliere. Exiger que les jeunes filles soient vêtues simplement revient donc à les inviter à la chasteté. Citation 7. Les vostre fanciulline avezzate le andar coperte dinanzi e serrate le su con due cottoni che paino tutte purità. Mais ce n'est pas tout. Il ajoute io non dico già che voi andiate col velo torto e male a concio, ma assettate come donne da bene e oneste. Car il y a aussi que l'étalage des richesses est contraire à l'esprit de pauvreté du Christ. C'est la citation 9. Non bisogna tanta pompa a chi vuole essere vero cristiano, bisogna simplicità. La sobriété vestimentaire participe donc de la purification des mœurs. Les fanciulles qui se plient à cette exigence montrent qu'elles renoncent à toute provocation sexuelle et qu'elles s'inspirent du dénuement des premiers chrétiens. Alors, Savonarole écrit dans son traité de philosophie morale, là je vais le dire en français, qu'à la femme convient tout ce qui concerne la parure, la noblesse morale, la discrétion, la réserve. Il n'est donc pas étonnant qu'il se préoccupe de l'apparence des fanciulli et les appelle à faire preuve de retenue dès leur plus jeune âge. Ces appels multiples pour que les Florentins, et en particulier les Florentines, fassent preuve de sobriété et renoncent à leurs ornements précieux ne sont pas non plus inédits. On connaît l'évangile de saint Matthieu, la première épître à Timothée qui invitait à renoncer aux vanités. Les pères de l'Église aussi se sont préoccupés des vêtements, et en particulier des vêtements féminins. Tertullien, au début du IIIe siècle, a écrit le « De cultu feminarum ». Et puis, toute la littérature didactique et pastorale de la fin du XIIe siècle à la fin du XVe siècle a répété à longueur de page que l'attention coquette et excessive portée à l'apparence du corps est une entrave à la recherche intérieure de la vertu. De plus, l'intérêt pour les questions vestimentaires n'est pas nécessairement l'apanage des prédicateurs. Ainsi, le gouvernement florentin, soutenu par l'Église, intervenait à intervalles réguliers pour contenir la passion des Florentines pour les riches étoffes, pour les bijoux aussi, à travers le vote de lois somptuaires qui étaient régulièrement reconduites. Donc, si l'attention portée par Savonarole aux vêtements des fanciulli s'inscrit dans une longue tradition, à la fois religieuse et laïque, on peut toutefois se demander pourquoi il s'intéresse de manière exclusive, et c'est surtout ce « de manière exclusive » qui m'a interrogée, pourquoi il s'intéresse donc de manière exclusive à leur apparence. Parce que lorsqu'il s'adresse aux enfants de sexe masculin, aux fanchulli, il se préoccupe certes de leur allure physique, mais il les invite aussi à renoncer à tous les amusements de leur âge. La lettre rédigée en 1497 par Fray Domenico da Pescia, à qui Savonarole a confié la réforme des fanciulli, est à cet égard emblématique. C'est la citation numéro 11. Donc, pour vivre comme il sied aux enfants élus de Dieu, les jeunes garçons devront avoir des cheveux à la longueur modérée, hein, et capelli a misura, mais également ne pas se dissiper à la campagne, dans la chasse, la capture, la pêche, et prendre d'autres plaisirs vains et désordonnés, hein, pigliare altri piaceri vani e disordonati. Ils devront au contraire se montrer sobri, quieti, modesti, e tutti i loro leciti spazi prudenti et moderati. Donc, le fait que l'espace public soit peu ouvert aux jeunes filles qui sont invitées à rester chez elles peut certes fournir une explication à cette différence de traitement. Contrairement à leurs frères, les fanciulles n'avaient guère l'occasion de se dévergonder à la campagne ou de festoyer dans les bals. Mais le silence de Savonarole concernant, par exemple, les gestes, l'alimentation, l'oisiveté ou encore le bavardage des fanciulles, qui sont pourtant des sujets abondamment et systématiquement traités par les moralistes et les prédicateurs, est plus surprenant. Donc il m'a semblé intéressant de comparer la place respective des fanciulle et des fanciulli dans la réforme de Florence. Alors, au mois d'avril 1496, Savonarole se réjouit du changement intervenu dans la mode vestimentaire féminine à Florence. C'est la citation numéro 12. Les donne erano come pagane, con tante lor foge e portamenti disonesti. Dimmi tu, donna, e tu, fanciulla, che sei convertita. Non ti vergogneresti tu a portare oggi queste cose? Se la gente ti vedessi, tu diventeresti pure rossa. Ora vedi e considera che tempo era quella e che tempo è questo, e conoscerai che allora era di notte e ora è cominciato a farsi il giorno. Les témoignages des chroniqueurs, et en particulier des partisans de Savonarole, vont dans ce sens. Cinozzi, par exemple, écrit que circa le fanciulle, che sai che naturalmente pare che non abbino altro appetito se non di ornarsi e di cose massime lascive e vane, e in ciò consumar quasi tutto il tempo loro, la qualcosa per le predicazioni del padre al tutto lassarono, non dico la decenza del stato loro e con ogni pulitezza che si richiede a simile stato, ma ogni superfluità e disonesta portatura, dicendo alle madre e massime le nobile, madre nostra, quello avresti speso in nostro ornamento, datelo ai poveri di Gesù Cristo. Et Cinozzi s'attarde ensuite longuement sur la réforme des fanciulli, donc des garçons, opérant la même distinction que Savonarole entre garçons et filles. Donc les garçons ont eux aussi laissé de côté leur coquetterie qui les rendait semblables à des prostituées, mais ils ont également renoncé à la sodomie comme à tous leurs vices. Ils ont transformé leur bataille de pierre en aumône pour le monde piété. Mieux encore, Cinozzi ajoute dans un de ses témoignages, les fanciulli ont pourchassé les joueurs. Ainsi, non seulement les fanciulli se sont eux-mêmes réformés, mais ils jouent un rôle actif auprès de leurs concitoyens. Rien de tel, en revanche, chez les fanciulle. Lorsque Savonarole exhorte à la simplicité, ses appels, adressés d'un côté aux garçons et de l'autre aux filles, place néanmoins les secondes à égalité avec les premiers. C'est la citation 14. Date via dunque, figliuoli e figliuole mie, alla simplicità e lasciate andare le cose superflue e le pompe e le vanità. Donc là, c'est dès le mois de novembre 1494. Cette recommandation, qu'on pourrait entendre de la bouche de n'importe quel prédicateur, ne repose sur aucune différenciation entre fanciulli et fanciulle. Quel que soit son sexe, chaque enfant est invité à revenir à une simplicité toute chrétienne. Il ne s'agit là de directives qui, a priori, ne concernent que la vie spirituelle et donc privée des enfants. Mais lorsque Savonarole évoque leur place dans la vie publique, alors ces recommandations vont varier selon qu'il s'agit de garçons ou de filles. Par exemple, il faut protéger les garçons de deux choses. D'une part, de la poésie, qui par nature incite à la lascivité, et d'autre part, des pratiques financières telles que l'usure condamnées par l'Église. En revanche, les filles ne devront être éduquées que pour préserver leur chasteté. Il l'explique très bien dans la citation 15, en février 1496, « Il male esempio dei padri, quello che arruinate l'anime dei figliuoli, e l'aver li posti ad esercizi che sono nocivi all'anima. La prima cosa li padri li pongano ad imparare poesie, e di poi agli banchi ad imparare cambi e usure, e così li mandano a casa del diavolo. Così ancora le fanciulle, appena oggi sono nate, che le stanno ogni male. Anticamente non era così. Avevano 20 anni che non sapevano che cosa fosse matrimonio, ma erano tutta semplicità. » Une telle vision de l'éducation qui repose sur des destins différenciés entre filles et garçons ne comporte certes rien d'original, la société ne voyant dans les femmes qu'un instrument de procréation. Mais ce qui est intéressant, c'est le rôle que le dominicain confie ou qu'il ne confie pas justement aux fanciulle dans la réforme de Florence. Car si les fanciulle sont appelés comme les fanciulli à changer leurs habitudes, Savonarole ne leur confie en revanche aucune tâche dans la cité. Contrairement à leurs frères, jamais les fanciulle ne sont invités à jouer un rôle actif auprès de leurs concitoyens. Alors que Savonarole a confié aux fanciulli, aux garçons, des missions de correction fraternelle inspirées de Thomas d'Aquin pour réformer les Florentins, jamais les fanciulle ne sont appelés à corriger la population. Un passage du traité que Savonarole a écrit pour les veuves fournit une explication. C'est la citation 16, pardon. Non dovete andare a cercare tutte le vostre vicine o tutta la città, o ricercare e esaminare la vita degli altri per correggere e dirizzare la vita eterna, perché questo sarebbe abbandonare se stesso per altri. Très significativement, ce ne sont pas non plus les fanciulle qui sont chargés d'apporter tous les objets voués aux flammes des bûchers des vanités, mais leur mère. Citation 17. « E voi madri che adornate le vostre figliuole con tante vanità e superfluità e cappellature, portatele tutte qua a noi per mandarle al fuoco, a ciò che, quando verrà l'ira di Dio, non trovi queste cose nelle case vostre. » Remarquons à ce propos que les mères sont chargées d'apporter les objets, mais pas de les jeter au feu. Apportez-les nous, dit Savonarole. Alors que les fanciulli ont un pouvoir de décision, ils vont de maison en maison pour recueillir tous les objets liés au plaisir et au luxe. Les femmes ont en revanche besoin de la permission de Savonarole, y compris pour brûler leurs propres objets. Ainsi, les directives de Savonarole au sujet de la correction fraternelle ou des bûchers des vanités ne s'adressent qu'aux garçons. C'est que les fanciulli sont porteurs d'un message politique. Ils sont intronisés par le prédicateur comme les gardiens de la nouvelle république voulue par Dieu. En revanche, les femmes, et encore plus les fanciulli bien sûr, sont exclues de toute vie politique. Aussi ne peuvent-elles prendre aucune initiative. Il semblerait dès lors que les fanciulli se trouvent dans une position de supériorité par rapport aux fanciulle, et d'un certain point de vue c'est le cas, mais pas entièrement, comme j'espère pouvoir le montrer. Comme les autres catégories de la population, les jeunes filles sont en effet soumises au contrôle policier, l'expression est d'Ottavia Nicoli, un controllo poliziesco, au contrôle policier exercé par les fanciulli. Le témoignage de Bénivier à ce sujet est éloquent. C'est la citation 18. Quando ancora trovassino per le strade pubbliche o per le chiese alcune donne o fanciulle impudicamente et fuori della loro debita onestà ornate dovessino parimente, idest con ogni umiltà, mansuetudine et reverenzia, admonire per parte di Dio et exhortare a deporre per il ben pubblico della città e delle private loro anime simili vanità. Et dans un des dialogues imaginaires qu'il compose souvent, Savonarole présente des fanciulle qui se plaignent d'être pourchassées par les garçons, par les fanciulli. C'est la citation 19. Quella fanciulla che dice noi siamo in preda dei fanciulli debbe voler andar vestita disonestamente, dunque non vuol vivere bene. Chi vuol vivere bene non ha paura di nulla e non va biasimando le cose buone. Au sein de la génération des enfants florentins, répartis en deux groupes délimités par le genre sexuel, il y a donc, en apparence en tout cas, un rapport hiérarchique. À cet égard, la place de chaque groupe de population au sein des processions est emblématique. Alors, voici comment Savonarole envisage la disposition de la procession prévue pour le jour des rameaux, le 27 mars 1496. La citation 20. Oggi alla processione ognuno, uomini, donne e fanciulli, grandi e piccoli, andranno prima i fanciulli con le croce rosse in mano, poi il tabernacolo, poi gli religiosi, poi gli uomini seculari, e quali tutti porterete l'ulivo, anche sarà bene portare la vostra crocetta in mano. Occupant la première place, c'est-à-dire la position traditionnelle du clergé, les fanciulli sont ainsi les intercesseurs privilégiés qui implorent la clémence divine, conformément à la façon dont les Florentins les voient depuis le début du XVe siècle. Les travaux de Richard Trexler l'ont très bien montré. Les fanciulli sont vus comme les sauveurs de la cité. En revanche, les fanciulli sont dans l'ombre de leur mère. Car dans les sermons, les fanciulles sont la plupart du temps évoquées en même temps que leur mère. Il est rare que Savonarole ne s'adresse qu'à elles. Plus précisément, Savonarole établit souvent un parallélisme entre d'une part le couple père-fils et d'autre part le couple mère-fille, qui exclut le croisement entre deux générations de sexes différents. Le prédicateur insiste à ce propos sur l'exemple que la mère doit montrer à sa fille, tout comme le père doit montrer l'exemple à son fils. Citation 21, je me rends compte que j'ai fait sauter la fin. Voilà, je suis désolée, oui, parce qu'en fait j'avais prévu de lire en français, alors ça me trouble de lire en italien. Non, ce qui comptait, la phrase la plus importante, oui, maintenant je vais lire en français. Puis les femmes avec les filles, mais que seules les filles et non les femmes portent une guirlande, parce que ce serait signe de légèreté pour les femmes. Et non, sinon après on ne comprend pas. Excusez-moi. Et où en étais-je ? Oui, donc j'en étais à vous dire qu'il y avait toujours comme ça une présentation du couple mère-fille d'un côté et père-fils de l'autre. Alors maintenant, je vais m'en tenir au français, ce sera plus sage. Citation 21, « Veux-tu convaincre toi le père, ton fils, et toi la mère, ta fille, et les ramener à la bonne vie ? Vis d'abord toi-même chrétiennement, et ton bon exemple les ramènera au bien vivre plus que toute autre chose que tu pourrais leur montrer. » Donc les fanciulle non seulement ne sont pas investis, contrairement à leurs frères, d'une mission de purification de la cité, dont j'ai souligné même rapidement le sens politique, mais elles ne sont même pas responsables de leur propre réforme, puisque c'est à leur mère que Savonarole s'adresse. Les fanciulle semblent donc privées de toute autonomie. Pourtant, ce rapprochement que le prédicateur opère lui-même entre les mères et leurs filles me semble très important, même si, encore une fois, il montre la subordination totale des fanciulles. Parce que le 7 mars 1496, Savonarole réunit significativement femmes mûres, jeunes filles et fillettes dans un même élan vers une réforme commune, en annonçant, c'est la citation 22, et nous voulons faire aussi la réforme des femmes concernant la façon dont elles doivent s'habiller, et de même pour les filles, grandes et petites, et de toutes conditions. Donc, ce projet nous permet d'analyser la question des fanchoules en nous appuyant sur la réforme des femmes que Savonarole a envisagée au printemps 1496. Alors, évoquant l'amour que les parents éprouvent pour leurs enfants, Savonarole remarque, citation 23, que les fils sont d'autant plus aimés qu'ils sont de sexe masculin, parce que la fille est un homme imparfait et n'a pas cette perfection qu'a le garçon. Dans un passage du Compendio di Rivelazioni, il évoque... Ne ris pas, je ris, c'est Sylvain qui me fait rire. Sylvain me fait rire. Mais de fait, c'est moyennement drôle. Et puis surtout, c'est bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Et pas aussi misogyne qu'on pourrait le penser. Si, je vous assure. Ne critiquez pas Savonarole. Bon. Qu'il n'est pas aussi fou furieux qu'il n'y paraît. Non, je vous assure. Non. Dans un passage, non mais parce que là il a l'air d'être un horrible, mais non, je vous assure, ça a un sens, ça va s'arranger. Alors, dans un passage du Compendio di Rivelazioni, Savonarole évoque la volubilité des femmes qui ne savent pas tenir un secret. Donc les femmes qui ne savent pas tenir un secret, leur ignorance, leur absence de jugement, leur fragilité, leur vanité, bon, tous ces défauts qui font d'elles une proie facile pour le démon. Dans son traité de philosophie morale aussi, il explique très bien que les défauts intellectuels de la femme l'empêchant de prendre des décisions et de s'y tenir, il est important que les affaires domestiques soient gérées par l'homme qui est supérieur à la femme par son intelligence. Alors, cette vision négative de la femme n'est évidemment pas inventée par Savonarole, elle est nourrie par des analyses séculaires. Aristote voyait déjà la femme comme un mâle mutilé et saint Augustin interprétait le récit de la création comme le fondement de la soumission de la femme à l'homme. Donc saint Augustin, j'en parle un peu parce que c'est important pour la suite, pour qu'on comprenne bien, saint Augustin considérait que l'âme et le corps n'avaient pas été créés simultanément mais successivement. Donc dans un premier temps, l'homme et la femme avaient été créés en tant qu'être humain, en tant qu'homo. Mais dans un deuxième temps, Adam et Ève avaient été créés en tant qu'homme et femme, en tant que weir et féminin, ce qui les avait différenciés l'un de l'autre d'un point de vue sexuel. Ça, il faut bien retenir, c'est fondamental pour la suite. Et saint Augustin déduisait que le corps de la femme ayant été façonné après le corps de l'homme, la femme nécessairement était inférieure à l'homme. Thomas d'Aquin, dont Savonarole s'inspire le plus souvent, estime, comme Aristote et saint Augustin, que la femme est imparfaite par nature. Étant donné que la femme n'est qu'un auxiliaire de l'homme pour la procréation, et sans qu'il y ait de complémentarité réciproque entre les deux sexes, la femme est inférieure à l'homme. Pourtant, même si Savonarole partage cette conception misogyne, il accorde, et de façon du coup apparemment paradoxale, une attention particulière aux femmes, comme le montrent les textes qu'il écrit exclusivement pour elles. Il existe un Libro della Vita Viduale, rédigé entre 1490 et 1491, qui propose aux veuves un modèle de femmes qui décident à la mort de leur mari de rester chastes et de se consacrer entièrement au service de Dieu. En 1496, un ouvrage composé à la demande de religieuses de Ferrare, l'Esposizione sopra l'Orazione della Vergine, est en langue vulgaire. La citation 24, dans un style simple et bas, uno semplice basso stile, parce que Savonarole l'a écrit et composé pour ceux qui ne comprennent pas la grammaire, et en particulier pour les jeunes vierges du Christ. Plus encore, Je ne sais pas s'il faut traduire par grammaire d'ailleurs, avoir latin, hein, latin. Plus encore, dès ses premiers sermons, Savonarole a prêché devant de nombreuses assemblées de femmes religieuses ou laïques, au point que ses adversaires le surnomment avec mépris « prédicateur pour femmes »,« predicatore da donne ». Ses sermons s'inscrivent toutefois dans une longue tradition de prêche aux femmes, car la Casa Grande a ainsi pu éditer un volume intitulé « Predica alle donne del secolo XIII ». Mais si Savonarole s'est vu reprocher son intérêt par les femmes, c'est probablement, en tout cas à mon avis, parce qu'il ne s'est pas contenté de prêcher à leur intention. Nous savons par une lettre de Jacopo Bongianni, adressée le 18 mars 1496 à Santi Rucellai, donc cette lettre qui a été publiée par Kent, que Savonarole a proposé que les femmes nomment une ou deux représentantes de chaque quartier de la ville pour décider quelles réformes concernant leurs mœurs devaient être officiellement promulguées. Mais donner une telle autonomie à des femmes que les Florentins disent « sotto governo » n'allait pas de soi. Déjà en retrait dans les affaires domestiques, la femme devait l'être a fortiori dans les affaires publiques. Destinées au mariage, en plus, les filles n'étaient pas instruites mais gardées, hein, selon la formule de Christiane Clapiche-Zuber. Parce que seule la conservation de leur virginité assurerait leur valeur matrimoniale. Or, en leur confiant la responsabilité de leur réforme, Savonarole sort les femmes de leur espace privé et confiné pour leur donner une place sur la scène publique. On comprend dès lors que son projet n'est pas abouti. Parce que ce projet s'est heurté à la résistance des Savonaroliens eux-mêmes, et y compris d'une femme, Caterina Rucellai, donc la sœur de Santi Rucellai, qui proteste très vivement. Donc Savonarole recule très vite, puisque deux jours après sa première proposition, il annonce son intention de confier la réforme des femmes à un comité masculin. C'est la citation 25. « Vous, les femmes, il faut que vous fassiez votre réforme. Mais le Seigneur Dieu m'a inspirée et je ne dois pas la mettre entre vos mains parce que vous causeriez du désordre. Mais nous la mettrons entre les mains de quelques hommes bons ou de quelques magistrats qui l'organiseront. » Malgré cette précaution, le Grand Conseil refusera systématiquement d'entériner les lois à ce sujet, pourtant approuvées par le Conseil des 80. Alors, ce rejet institutionnel est bien connu par la critique, hein, et n'a rien d'étonnant dans une société où les femmes constituent un groupe social marginal, privé d'identité légale et politique. Beaucoup plus intéressant, à mon avis, est de comprendre quel rôle Savonarole entendait confier aux femmes, alors même qu'il partageait les conceptions misogynes de son temps. Bien d'accord, mais quand même, néanmoins, toutefois. Donc, voici ce qu'il écrit dans le Libro della Vita Viduale. C'est la citation 26. Alors, bon, j'espère que la traduction va à peu près. Hein. Jean-Claude me corrigera. Bien que l'apôtre interdise à la femme de prêcher en public, il ne lui est toutefois pas interdit d'exhorter en secret quand il le faut. C'est même tout à son honneur. Il est vrai que la femme ne doit pas être prête à enseigner parce que son devoir est plus de se taire et d'apprendre avec humilité. Et il ne lui appartient vraiment pas d'enseigner, sinon à ceux qui lui sont inférieurs, comme le sont ses fils et ses filles, bon, ses petits-fils, ses petits-enfants, et ses servantes. Mais aux autres auxquels elle n'est pas supérieure, elle ne doit pas vouloir enseigner si on ne lui demande pas et si elle n'est pas presque forcée, quand bien même elle serait savante et sage, afin qu'il ne semble pas qu'elle parle par vanité et pour avoir la réputation, parmi les autres, d'être honnête et d'avoir de bonnes mœurs et une vie sainte et bonne. Là, c'est un peu maladroit, c'est pas très clair. Bref, autrement dit, la femme peut transmettre un enseignement dans la vie privée, mais pas dans la vie publique, puisque par nature, elle a un statut inférieur à tous ceux qu'elle pourrait rencontrer en dehors de sa vie familiale. Savonarole précise toutefois, citation 27, que la veuve, alors ce « et d'autres », j'ai du mal à comprendre ce que vraiment il recouvre, je fais appel à vos lumières. Bon, « ne doivent enseigner à ceux qui leur sont supérieurs que de deux façons, à mon avis. D'une part, en prêchant le bon exemple, qui fait agir plus que les mots. D'autre part, quand l'inférieur voit que son supérieur se trompe quant à la voie du salut, parce que dans ce cas, l'inférieur devient supérieur. » Alors, dans ses sermons, Savonarole insiste à plusieurs reprises sur l'importance de l'image que chacun donne de lui-même au sein de la cité. C'est Garfagnini qui l'a bien souligné, ce sont les manifestations extérieures de la conversion individuelle de chaque Florentin qui conduisent l'ensemble de la cité à la réforme collective. De fait, Savonarole explique que si la cité veut engendrer de bons citoyens, elle ne doit afficher que, citation 28, « l'exemple du bien-vivre qui convainc tout un chacun ». Il reprend aussi les termes de Thomas d'Aquin qui rappelle que toute connaissance commence par les sens. Ainsi, Savonarole explique que l'aveugle et le sourd de naissance ne connaissent ni les couleurs ni les sons parce qu'ils n'ont jamais pu en prendre connaissance. De la même façon, des citoyens qui n'auraient jamais été confrontés au mauvais exemple du péché ne pourraient qu'adopter le bien-vivre. Voilà pourquoi Savonarole affirme, citation 30, qu'il faut donner de soi un bon exemple du bien-vivre chrétien et que chacun, dans tous ses actes, montre de la contrition et une vie chrétienne, dans son habillement comme dans toute autre chose. Il faut que notre vie et notre simplicité soient un exemple pour les autres et que prêcher aux autres, elles les convertissent au bien-faire. Or, c'est le corps sexué de la femme, le corps de la fémina opposé au oui, qui détermine sa place dans la société. Cette prédominance du corps dans la définition de la femme explique pourquoi, sur la scène publique, la femme ne peut avoir qu'un rôle de représentation. Maria Giuseppina Muzzarelli explique à ce propos que les femmes véritables mannequins à exposer, elle a fait quelque chose sur les lois somptuaires et sur les habits des femmes, donc les femmes véritables mannequins à exposer manifestaient publiquement le pouvoir et le privilège de la famille à laquelle elles appartenaient. Savonarole cherche donc à faire de la femme, traditionnellement exposée au regard des autres, l'emblème inversé d'une Florence réformée. Vêtues modestement, les femmes, et semblablement les fanciulle, ne mettraient pas en valeur la richesse de leur famille et la puissance des familles, mais incarneraient l'image même du bien-vivre et inciteraient par là l'ensemble des Florentins à se convertir. Veiller à la tenue vestimentaire des fanciulle est donc loin d'être un détail, mais constitue pour Savonarole un moyen d'instaurer et de préserver la chasteté à Florence, conformément à la volonté de Dieu. Par l'exemple qu'elle donne, femmes et fanciulle deviennent un modèle à imiter et jouent ainsi un rôle dans la réforme de la cité. Il y aurait donc là l'explication de la préoccupation exclusive de Savonarole pour l'apparence des fanciulle. Cependant, se limiter à cette analyse reviendrait à ignorer les nombreux passages où Savonarole condamne les tièdes. Les tièdes, ce sont les mauvais religieux qui se contentent des manifestations extérieures de la religion pour se considérer les dignes serviteurs de Dieu. Par exemple, dans le sermon 10 sur les psaumes, le prédicateur opère un rapprochement significatif entre les parents soucieux des seules apparences et les tièdes, citation 31. Tels sont les prêtres qui ne regardent que les cérémonies. De même sont semblables à eux ces pères et ces mères qui disent à leurs filles « Sois modeste et bien élevée » et qui ne le font pas pour qu'elle soit bonne à l'intérieur, mais uniquement pour qu'elle soit vue par les autres de l'extérieur, et ils ne se soucient pas de l'intérieur. Il rajoutait même, pour la petite histoire, que les parents ne se préoccupaient pas de détourner les garçons de la sodomie parce qu'ils ne couraient pas de risque de grossesse et que par conséquent, il n'y aurait aucune manifestation public et que c'est pour ça que, voilà, que les parents ne se préoccupaient pas de détourner leur garçon de ce vice. Bon, ces reproches montrent en tout cas que Savonarole ne peut pas se préoccuper uniquement de l'image que renvoient les jeunes filles dans la cité, fût-ce pour qu'elles donnent le bon exemple. De fait, l'essentiel se trouve ailleurs que dans les accessoires de beauté, comme il ne manque pas de le rappeler à ses auditrices. Citation 32. « Tu dis que tu veux une frange autour de ta robe. Cela ne m'ennuie pas. Fais seulement en sorte qu'il y ait de l'honnêteté. Fais seulement en sorte qu'il y ait l'essentiel, car je ne me soucie pas des autres choses accessoires. » À ce propos, Savonarole critique les mères qui apprennent à leurs filles à circuler bien proprement et bien honnêtement de l'extérieur, mais qui ne leur apprennent pas à enlever ce qui, à l'intérieur, n'est qu'orgueil. Donc les fanchoules ne doivent justement pas se comporter comme les tièdes, mais au contraire être semblables à la Vierge Marie, dont la simplicité vestimentaire n'était pas une parure hypocrite, mais le véritable reflet de son âme consacrée à Dieu. Signe de l'importance qu'il donne à ce point, Savonarole l'explique longuement le 25 mars 1496. Donc c'est long, mais je crois que ça vaut la peine quand même de le lire. La Vierge dit « Ma fille, si tu veux que je sois ta mère, fais comme je le faisais moi, couvre ta tête, sois entièrement honnête. » Sachez que la Vierge s'habillait simplement avec un vêtement dépourvu d'ornements. La Vierge est mère d'un bel amour, c'est-à-dire pas d'un amour mondain, mais d'un amour divin. Et c'est pourquoi, ma fille, tu ne dois pas avoir toutes ces robes et tous ces filets. Si tu veux être la fille de la Vierge Marie, tu diras que c'est l'usage. Je te réponds de ne pas te préoccuper de ce qui se fait si tu veux être fille de la Vierge Marie. Beaucoup ne se soucient pas d'être appelées filles du diable, à savoir celles qui arborent ces arcelets, j'ai pas trouvé mieux, ces tignasses et ces accessoires malhonnêtes. Donc toi, tu ne dois pas avoir honte d'être appelée fille de la Vierge Marie, parce qu'elle dit « si tu as honte d'être ma fille, moi je ne te veux pas ». Qu'il vous suffise donc d'avoir un fichu blanc, d'être bien coiffée honnêtement. Mais certaines veulent des voiles légers à deux ducats l'un. Non, non, elles ne sont pas filles de la Vierge Marie. Allons donc, mes filles, faites votre réforme pour que chacune soit fille de la Vierge Marie. Qu'aucune d'entre vous n'ait honte d'être vêtue simplement. Le Christ n'a pas eu honte d'être nu pour toi sur la croix. De la même façon, tu ne dois pas avoir honte d'être vêtue simplement par amour du Christ. » Donc c'est que la femme n'est pas seulement la tentatrice qui possède un corps désirable. Or, si d'un point de vue corporel, les relations entre l'homme et la femme sont marquées par l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, d'un point de vue spirituel, sa création en tant qu'être humain, homo, détermine ses relations avec Dieu. Et de ce point de vue, la femme, donc la fémina, est sur le même plan que l'homme, Wir. En tant que créature humaine, par son âme, la femme est donc l'égale de l'homme devant Dieu. Savonarole le rappelle fort bien dans le sermon 21 sur l'Exode, citation 35, « Devant Dieu, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Dieu ne regarde ni les corps ni l'esprit, mais seulement les âmes et la pureté de la vie. » Il ne cherche plus si c'est un homme ou une femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Apud Deum non est masculus neque femina », c'est-à-dire que Dieu n'apprécie pas plus le masculin que le féminin, mais il cherche seulement à faire en sorte que l'âme vive bien et qu'il y ait en elle la sainteté de la vie. Ce principe d'égalité de tous les êtres humains devant Dieu autorise la femme à avoir une vie spirituelle égale, voire supérieure à celle des hommes auxquels elle est par ailleurs soumise. Alors certes, les femmes, comme les enfants, n'ont pas les aptitudes intellectuelles pour suivre un enseignement autre que religieux. Mais loin d'être un obstacle à la compréhension des choses divines, cette absence d'instruction qui fait des femmes et des enfants des simples est au contraire un atout considérable. Car contrairement aux sages et aux savants, là je cite Savonarole, qui ont l'orgueil de penser qu'ils n'ont pas besoin de la lumière de Dieu, citation 36, les simples croient immédiatement et fortement aux choses de Dieu. Erano molto creduli subito alle cose di Dio. Et Savonarole écrit à ce propos, citation 37, que même les femmes, dès que nous énonçons les textes évangéliques ou d'autres livres canoniques, avant que nous les expliquions, ont immédiatement, toutes seules, le pressentiment de ce que sera notre explication, ou savent déjà comment adapter et rapporter les anciens enseignements des Écritures à notre époque. Par conséquent, demander aux fanciulle et à leur mère de veiller à la sobriété de leur mise ne revient pas seulement à gommer des attraits pouvant susciter la concupiscence, ni même seulement à renvoyer l'image d'une cité purifiée, comme pouvaient par exemple le faire les autres prédicateurs qui condamnaient toute provocation d'ordre sexuel et invitaient à renoncer au luxe et au superflu. Ce que demande Savonarole aux fanciulle, c'est de manifester sur la place publique le retour à la simplicité des premiers chrétiens. Il met en scène une véritable théologie de la simplicité. Malheureusement, ce n'est pas de moi, c'est une formulation d'Adriana Valerio. Une théologie qui appelle les Florentins à retrouver la foi chrétienne des origines et qui fait des simples les véritables acteurs de la réforme de la cité. Il ne s'agit donc pas de cacher les fanciulle, mais au contraire de les montrer, parce que Savonarole considère qu'elles ont compris, comme leurs frères, comme les fanciulli, quel était le sens de la réforme voulue par Dieu. Alors leur fragilité et leur vanité les empêchent de prêcher, mais elles peuvent néanmoins transmettre le message divin à ceux qui les entourent, être les prédicatrici dont parlait Bernardin de Sienne. Et alors que le prédicateur siennois limitait le périmètre d'influence des femmes à leur famille, Savonarole leur donne un rôle sur la place publique et les autorise même à prêcher à ceux qui leur sont supérieurs. C'est qu'il constate à regret, à partir de 496, qu'une grande partie des Florentins refuse d'adhérer au projet de réforme qu'ils considèrent voulu par Dieu. Savonarole se tourne alors vers la partie de la population qu'il estime la plus malléable. C'est la citation 38 et 39. « Puisque les grands ne veulent pas agir, agissez, vous, les petits ». Il déclare donc ça de façon, à mon avis, très emblématique, le 4 décembre 1496, les petits et les tout-petits étant ceux qui s'humilient et se rabaissent et se conduisent simplement. Savonarole compte donc sur les humbles, sur ceux dont l'absence d'instruction les rend les plus aptes, d'après lui, à comprendre immédiatement le message divin. Et de ce point de vue, les femmes et les fanciulle ont le même rôle à jouer que les fanciulli, comme le montre une observation de Savonarole, donc, qui place les deux réformes, des femmes d'un côté et des fanciulli de l'autre, sur le même plan. Hein, citation 40, « Ô femmes et enfants, votre réforme n'est pas encore gagnée. Dites de ma part à la magnifique seigneurie que ce n'est pas une chose humaine, mais une chose de Dieu. » Donc, dans une cité dominée par l'oligarchie marchande, Savonarole fait donc confiance aux marginaux, les femmes, les enfants, garçons et filles, pour mener à bien son projet. Pas plus que les femmes et les fanciulle ne peuvent prendre de décisions politiques ni participer aux charges publiques. Mais par leur simplicité spirituelle, dont la simplicité vestimentaire est à la fois le reflet et le fondement, elles peuvent contribuer à la réforme de Florence en étant des modèles à imiter. C'est pourquoi d'ailleurs Savonarole va faire de l'état d'homme non pas la condition pour que les femmes accèdent à la sainteté, conformément au topos de la femme virile, mais déjà la conséquence même de leur conversion, En mars 96, il déclare que les femmes et les enfants ont une âme vile et ceux qui suivent le Christ doivent avoir une âme grande. Mais si toi, femme, et toi, enfant, avez décidé de vivre bien, toi, tu n'es plus femme ni toi, enfant, mais homme et tu as l'âme virile. En donnant aux femmes et aux enfants une nature masculine, Savonarole légitime la place qu'il accorde aux plus humbles dans son projet de réforme de Florence. Ainsi, les fanciulle, qui possèdent les mêmes qualités spirituelles que leur mère et qui sont de la même génération que les fanciulli, ont donc, elles aussi, leur place dans la cité. Loin de les laisser confinés dans l'espace clos de la maison, Savonarole les invite à apparaître sur la scène publique pour montrer le chemin de la réforme à l'ensemble des Florentins. Alors, en conclusion, je voudrais souligner que pour étudier la place et la fonction des fanciulle dans la pensée de Savonarole, l'analyse comparée du rôle des fanciulli et des femmes a été indispensable. Alors, il y a là un reflet du statut subalterne des fanciulle, à la fois enfants par l'âge et femmes par leur identité sexuelle. Elles sont doublement définies par l'infériorité. Mais il n'en reste pas moins que Savonarole leur confie un rôle. Pour passif qu'il soit, il est intéressant parce qu'il montre que Savonarole compte sur tous les Florentins dans un premier temps, puis sur les groupes marginaux ensuite, pour mener à bien son projet. De plus, à mon avis, l'étude du rôle des fanciulle permet de mieux comprendre les appels à la simplicité et de sortir un peu des représentations angéliques ou diaboliques qui sont toujours faites ou qui sont souvent données de Savonarole, parce que contrairement aux autres prédicateurs, Savonarole ne se limite pas à réprimer le luxe ou la luxure. La réforme des mœurs, chez lui, n'est que le préalable à une réforme politique qui est fondée, entre autres, sur la simplicité. Simplicité qui, avec l'humilité et la charité, constitue, ce sont ses mots, toute la vertu d'un règne. C'est la dernière citation. Et mon dernier mot avant les critiques. Merci.